Pierre Leroux n'est pas un homme très connu, et pourtant, si les mots nouveaux, l'invention d'un mot, était assortie d'une garantie, d'un brevet, eh bien Pierre Leroux, ou plutôt la mémoire de Pierre Leroux, serait millionnaire, serait milliardaire, serait multimilliardaire, puisque le mot qu'il a inventé, qu'il a forgé, ce mot, c'est un des mots sans doute les plus usités dans le vocabulaire politique depuis une centaine d'années. Ce mot, c'est le mot socialisme. Donc nous allons pouvoir nous plonger un petit peu dans la vie de ce Pierre Leroux, personnage qui fut célèbre, qui aujourd'hui est un petit peu mystérieux, grâce à un livre de Jérôme Peignot. Le livre s'appelle « Pierre Leroux, inventeur du socialisme » et les éditions sont les éditions Klingsic. Jérôme Peignot, j'ai l'impression que, avant d'entrer dans le personnage de Pierre Leroux, c'est une question un peu sur vous, à propos de vous, je vous pose, que, je ne dirais pas, vous vous assimilez à Pierre Leroux, mais vous avez quand même beaucoup de points communs. Je les cite, ces points communs. Il y a d'abord le socialisme, j'imagine, je ne sais pas vos opinions politiques, mais je vois que votre livre est dédié au président Mitterrand. Un deuxième aspect, c'est que Pierre Leroux, qui fut polytechnicien, est ensuite devenu typographe, ce qui est tout à fait extraordinaire du reste. Et alors, troisième trait, je ne sais pas si cela aussi converge dans votre cas et dans celui de Pierre Leroux. Pierre Leroux était donc socialiste et il l'a montré avec énergie, avec force, avec courage aussi. Et il était chrétien. Alors, je ne sais pas si vous êtes chrétien aussi comme Pierre Leroux. Mais enfin, il me semble tout de même qu'entre Pierre Leroux et vous, il y a quand même beaucoup de connivence, de complicité.
Voilà. Je vais vous répondre sur ces points. Mais je voudrais commencer, puisque vous avez eu la gentillesse de faire allusion à la dédicace. Je me demande si, finalement, je n'ai pas écrit le livre pour la dédicace.
Ah, parfait.
À François Mitterrand, président de la République française, à qui on doit d'avoir donné au socialisme une expression aussi poétique que réaliste. Oui, c'est une affaire assez singulière que l'histoire même de ce livre. Je vais vous la résumer brièvement. J'ai travaillé beaucoup à France Culture, au chemin de la connaissance, et un homme qui s'appelait M. Viard avait beaucoup milité en faveur de la pensée de Leroux, et il avait demandé au fond à France Culture pourquoi on n'en parlait jamais. Là-dessus, j'ai été chargé par la direction de France Culture à l'époque, ça remonte donc avant 81, de faire une série d'entretiens avec M. Viard. Cette chose s'est faite, puis finalement, des gens ayant entendu l'émission et s'intéressant à ce personnage un peu mystérieux, comme vous dites, et pourtant d'une grande pensée, d'une grande étendue de pensée, des éditeurs m'ont demandé de travailler l'affaire. Monsieur Viard, finalement, a récusé cette proposition que je lui avais transmise par l'intermédiaire de ses éditeurs, et c'est moi, finalement, qui ai écrit le livre. Mais j'ai eu beaucoup de déboires avec les éditeurs, pour commencer. Peut-être parce que le livre n'était pas suffisamment travaillé, solide, mais aussi peut-être parce que Leroux continuait
à gêner.
Et alors finalement, je suis tout de même parvenu à publier ce livre, et comme je l'ai dit au président, en m'excusant, avec un septennat de retard.
Parfait.
Donc, alors je réponds aussi à une autre question. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup de connivence avec Leroux. Je ne suis pas cependant un historien, et je me suis lancé dans cette affaire. Et il y a tout de même un point sur lequel j'insiste tout de même, je n'ai pas sa foi chrétienne. Ce qui a évidemment...
Vous avez un grand respect pour sa foi chrétienne dans le livre.
Ah, tout à fait. Mais je ne suis pas moi-même, puisque vous me posez la question, oui. Je vous réponds là-dessus, je ne suis pas un fervent chrétien comme il l'est lui-même.
Et typographe, tout le monde sait que vous avez été typographe et que vous avez ensuite publié beaucoup d'études très très importantes sur la typographie, sur la lettre, sur l'écriture, sur le chiffre,
oui.
Etc.
Eh bien écoutez, voilà au fond ce qui me rapproche de Leroux. On aura peut-être tout à l'heure l'occasion d'en parler. Il a fait un hymne, un éloge à Gutenberg.
Oui, très beau.
Mais, il pense comme moi, au fond, qu'il n'y a pas d'un côté, surtout pour un écrivain socialiste, comme il l'était et comme je le suis, Il n'y a pas d'un côté, au fond, l'écrivain enveloppé dans une houppelande, et puis de l'autre côté, les gens qui barbotent dans langue et qui les impriment. Signifiant, signifié, mais signe aussi. Sans signe, il n'y a ni signifiant, ni signifié. Alors pour moi, mes études sur l'écriture, au fond, ne sont pas à dissocier, au fond, d'une réflexion même philosophique, voire... Et tout ça se tient,
Et dans son cas aussi.
Et dans son cas aussi. Alors il était d'abord typographe, n'est-ce pas? Il a d'abord été typographe au Globe, où il était, bon, à la casse. Et puis, d'ailleurs, c'est assez amusant, il le raconte à un moment, il composait les poèmes de Victor Hugo. Et puis tout d'un coup, finalement, il s'est dit, mais pourquoi moi aussi, après tout, je ne mettrais pas... D'autant qu'il s'apercevait que le typographe avait une vie terriblement difficile. Et d'ailleurs, pour...
C'était quand même un milieu, le milieu typographe, qui était extrêmement effervescent du point de vue politique et social.
Nous sommes à la veille de la révolution 1830. Et voilà, les typographes sont les fers de lance même du combat politique. Hein, il faut bien appeler politique ce combat-là, quand bien même le mot aurait été aussi très dévoyé. Lui, il a l'idée, justement, la première idée qu'il a, c'est de fabriquer une machine qui s'appelle...
Le pianotype.
Le pianotype.
On dirait un truc de Boris Vian, ça, hein, le pianotype.
Eh ben non. Vous savez que ce pianotype n'a l'air de rien, mais enfin, c'est la première mouture, finalement, de ce qu'on pourrait appeler la linotype, oui, parce que c'est une machine qui fabrique des lignes blocs, un peu, oui. Il y a une précision à apporter, là... linotype ou monotype, parce que justement là il y a un petit hic, comme on dit. Il n'est pas arrivé à fabriquer finalement industriellement cette machine, parce qu'il a eu des entraves économiques, d'ordre économique, et on l'a chicané sur cette machine. Mais enfin, son but était justement, en fabriquant cette machine, de soulager les ouvriers de cette tâche.
En revanche, il y a un point qui est différent entre vous et lui, c'est que vous ne vous ressemblez pas, parce que je cite là un texte que vous avez prélevé je ne sais où, qui décrit ce monsieur Pierre Leroux, toujours vêtu de noir. Il portait une immense redingote, parfois bien luisante, un gilet descendant très bas et boutonné jusqu'au cou, probablement pour cacher la chemise, alors que vous, votre chemise est tout à fait convenable. Hein. Le cou était entortillé d'une large cravate blanche mal nouée, à la mode du directoire. Ses souliers étaient rarement cirés. Ne se préoccupant jamais de ce qu'il avait à manger, il se contentait de n'importe quoi et ne se rappelait pas le soir ce qu'il avait pris le matin. Il écrivait beaucoup et son bureau de travail consistait en deux planches de sapin retenues par des clous à la muraille. Une caisse voisine contenait des manuscrits non encore publiés. Un autre détail, c'est que George Sand, avec laquelle il a eu des relations très amicales, très longues, George Sand, elle ne l'a pas pris comme amant, a-t-elle dit, parce qu'elle ne le trouvait pas beau.
Oui,
voilà, mais, ça, c'est le portrait du personnage.
Voyez-vous, bon, cet homme arrive là avec des idées tout à fait belles, sublimes, d'égalité, de fraternité, de liberté. Et évidemment, il est un paysan.
Bien qu'il fût né à Paris, hein, mais une famille d'artisans.
Mais enfin, bon, il a de. Enfin, c'est un homme qui n'a pas l'habitude des salauds, disons, hein, pour résumer. Mmh. Alors très vite, finalement, on se moque de lui. Le charivari le ridiculise par la suite. Mais cette hostilité même qu'on a et qui se traduit par ces grimaces que l'on fait. À son propos, eh bien, voilà, moi je vais la contrer par finalement ce que Balzac, Marx, Michelet, Floratistan disent de lui. Balzac, ce profond philosophe, ce hardi théoricien, ce travailleur consciencieux. Marx, le génial Leroux. Michelet, l'illustre ouvrier. Floratistan, Leroux, l'homme-peuple. Alors c'est vrai que Montalembert et tout ce joli monde, évidemment, le brocarde...
Vous avez cité Balzac, là.
J'ai cité Balzac,
oui. Oui, eh bien, alors moi, je vais vous contre-citer Balzac.
Oui, oui, d'accord.
Balzac qui dit « Le train philosophico-républico-communisto Juppé, Pierre Leroux-Sico, Germanico, Deisto, Sandic, s'est arrêté en race campagne.
Oui, bah écoutez, tout le monde connaît, tout le monde sait bien que Balzac n'est pas un socialiste.
Oui, pas du tout.
Disons que de ce côté-là, moi j'avais tiré de Balzac le meilleur que vous m'avez...
intelligemment compris. En tout cas, le type, ce personnage a retenu l'attention de ses contemporains et des plus grands, incontestablement, et jusqu'à Jaurès, alors plus tard, Jaurès l'a reconnu aussi comme un des ancêtres du...
Non, mais le peuple lui-même l'a reconnu. N'oublions pas quand même qu'il a été député de l'Assemblée constituante en 48 et député de l'Assemblée législative, député de Paris, en 49. Alors bon, c'est vrai que ces grands esprits reconnaissent son œuvre remarquable, monumentale. Il a créé un ouvrage qui s'appelle De l'humanité, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Et il a écrit aussi beaucoup de pamphlets sur la perfectibilité, sur... Et le peuple lui-même l'a reconnu. Alors, maintenant, vous voulez bien, parlons de...
Ce que j'aimerais, c'est voir un petit peu son parcours, quand même.
Ah, un petit peu son parcours.
Son parcours même idéologique, politique. Au départ, il est plutôt saint-simonien.
Au départ, il est plutôt saint-simonien. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il, puisque vous m'avez posé la question, qu'il invente le mot socialisme. Et il dit d'ailleurs, c'est moi qui le premier me suis servi du mot socialisme. Je forgeais ce mot par opposition à individualisme qui commençait à avoir cours.
Donc socialisme, pour lui, ça voulait dire saint-simonisme d'une autre manière.
Alors justement, voilà où les choses commencent à se compliquer. C'est vrai qu'on peut contester, il y a beaucoup de gens qui disent, mais non, c'est pas Leroux qui a inventé le mot. Mais lui-même a par la suite nié qu'il était l'inventeur du mot, parce que le mot socialisme a été associé au mouvement saint-simonien, lequel mouvement saint-simonien auquel il participait au départ a pris une voie ensuite, disons,
qui lui a déplu,
c'est celle de Napoléon III, qui faisait donc...
Même avant Napoléon III, d'ailleurs.
Oui, mais enfin, c'est le saint-simonisme, disons, pour brièvement résumer ce qui s'est passé, a servi de relais idéologique à Napoléon III. Et voilà que donc, bien entendu...
Donc au capitalisme...
Au capitalisme,
etc. À Suez, etc.
Voilà, ou de 100 familles, etc. Alors là, justement, nous nous trouvons exactement à l'opposé de la définition que Leroux entend donner au mot socialisme. Alors, il récuse l'acception...
Mais il a eu des dissensions aussi, plutôt, avec Enfantin, non?
Alors oui, il s'est brouillé avec le mouvement saint-simonien, parce que Enfantin avait émis des conceptions, en particulier relativement à la sexualité et à l'enfantement qu'il trouvait tout à fait scandaleux. Et finalement, Enfantin a servi de répulsion à l'égard dans sa querelle avec le saint-simonisme. Et puis tout d'un coup, finalement, il s'est aperçu que non, ces gens allaient exactement à rebours de là où ils voulaient aller.
C'est ça. Donc au départ, c'est un saint-simonien. Plus tard, vous venez de l'expliquer, il va se séparer, mais complètement même, des saint-simoniens.
Il prend une part active à la révolution du 1830, parce qu'à l'époque, il est pratiquement le seul responsable du journal Le Globe. Et pendant les fameuses révolutions, les journées de juillet 1830, eh bien, il très courageusement, alors que vous vous souvenez que les révolutions du 1830 et ces fameuses trois glorieuses reposent sur finalement une interdiction de la liberté de la presse, une entrave à la liberté de la presse. Alors lui, très courageusement, il va à l'encontre de cet arrêté, de cette loi, de cette interdiction.
Il
continue à publier.
Il est
tout
peu seul.
Tout seul. Oui. Et très courageusement, il s'oppose à ça. Alors, d'ailleurs, fait que plus tard, au moment de sa mort, en 1871, en pleine commune, les communards lui reconnaîtront. Il a été un héros, là, vraiment, en 1830. Alors, ensuite, il quitte le mouvement saint-simonien, il quitte le Globe, et il crée finalement, après beaucoup d'avatars financiers en particulier, mais toujours soutenu par Georges Sand, il crée une revue, la revue encyclopédique. Un homme avec lequel j'ai eu un entretien téléphonique il y a peu, parlant de cette revue encyclopédique, et pour finalement la définir dans l'esprit du public, dit, mais au fond, la revue encyclopédique a un peu joué le rôle des temps modernes de Sartre en 1900, dans les années 50. Eh bien, c'est un peu ça, voilà. Cette revue encyclopédique, elle est à la fois, bien entendu, très nettement marquée à gauche, et en même temps, elle veut un cheminement intellectuel, une réflexion philosophique très très approfondie, et elle est finalement tout à fait axée sur le christianisme. Pour résumer toujours, l'idée de Leroux est que socialisme et christianisme, ce sont deux conceptions, deux mots qui se recoupent absolument, qui se
superposent. Ça, c'est tout à fait fondamental.
Ça, c'est fondamental. Voilà.
Et il était assez solitaire dans cette époque à maintenir cette double exigence du christianisme et du socialisme.
Non. Il faut dire que dès la Révolution française, l'idée qu'il y avait là une coexistence, un rapport étroit était déjà courante. Vous vous souvenez de l'idée qui a beaucoup circulé du Christ sans culotte.
Oui.
On disait cela. Non, c'est une vieille idée au fond, une vieille idée du 19e, mais au fond à laquelle il donne une nouvelle jeunesse. Alors non, il y a des tas de gens. Alors, il y a la querelle avec l'âme, il y a des gens qui d'abord, dans un premier temps, le contre, et puis ensuite... parce que évidemment il s'oppose dans l'affaire à l'attitude du pape et de l'Église officielle, laquelle attitude finalement consiste à se ranger du côté de l'aristocratie et du pouvoir. Alors là, il dénonce ça, bien entendu. Et là, il ne peut pas emboîter le pas, disons, à l'orthodoxie du moment et à l'establishment chrétien du moment.
Oui, mais ce qui me frappe, il y a cet aspect christianisme socialiste, socialisme, ça c'est très très important, évidemment. Il y a aussi autre chose qui me frappe, c'est que cet homme, qui est quand même pas du tout un violent, mais un homme très décidé et qui ne plie jamais quant à sa doctrine, il est en même temps pas tout à fait un extrémiste.
Ah non.
Par exemple, la propriété, en tant que telle, il ne la met pas en cause. Ce sont plutôt les effets de la propriété, l'héritage, etc., il me semble.
Écoutez, alors là, c'est à vous que je m'adresse, donc aux connaisseurs de l'utopie. Ça n'est pas un utopiste. Oui. Ça n'est pas un utopiste. C'est au contraire, contrairement à ce qu'on a dit.
C'est un homme réaliste.
Bernard Noël, dans son dictionnaire de la Commune, le cite et dit de lui l'utopiste. Non, c'est pas un utopiste. Je le trouve beaucoup moins utopiste, alors c'est à moi de vous poser la question, que Owen, Cabet, et que les autres...
Oui, Owen, Cabet sont des utopistes de stricte obédience.
Fourier aussi.
Enfin, Fourier est très compliqué, mais c'est un utopiste aussi.
Il se fâche avec Fourier, d'ailleurs, parce que justement, Fourier, il prétend qu'il ne tient aucun compte, justement, de l'orientation chrétienne que lui veut donner au socialisme. Mais donc, c'est pas du tout un utopiste.
C'est ça. Donc, par exemple, l'idée de propriété ne le choque pas en tant que tel.
Pas du tout. Ce à quoi il croit, c'est à la perfectibilité. Il croit qu'au total, et alors il se lance dans ses ouvrages, et en particulier dans De l'humanité, à une espèce de lent, grand, vaste comme ça, portrait de l'humanité, où il montre que, bon, c'est vrai qu'il y a des trous, il y a des retombées dans des désastres profonds et des malheurs qu'il ne nie pas. Mais au total, il croit à la perfectibilité. Il croit à la perfectibilité. Il croit qu'il y a un mieux-être. Mais il ne croit pas qu'à ce mieux-être, on peut parvenir par la force, par la violence. Et il justifie tout à fait la propriété. Il y a la fameuse affaire, la propriété, c'est le vol. Non, pas du tout. Mais il veut une meilleure répartition, une répartition des biens. Que vit-on à l'époque? La France a, on ne sait pas très bien, 30 millions d'individus. Et on ne les a pas recensés. Mon livre tient compte de cette analyse de la situation, médicale, si j'ose dire. Alors, quelques-uns sont repérés parce qu'ils votent. C'est l'affaire du sens. Et puis le reste, alors il y a, peut-être il y a 800 000 personnes dont on connaît l'identité. Puis le reste, c'est 29 millions de gens qui errent dans la misère, la détresse absolue. Alors là, non, c'est pas possible. Ce qu'il veut, c'est une répartition plus équitable de ce bien national et de la propriété, justement. Il veut faire en sorte qu'il n'y ait pas les 200 familles ou les 200 000 personnes, car il les évalue à peu près à 200 000, qui détiennent le pouvoir et en même temps la richesse de la nation.
C'est ça. Cette revue dont vous parlez, comment vous l'appelez,
la revue encyclopédique.
La revue encyclopédique. C'est avant 48 alors.
Alors, cette revue encyclopédique...
C'est quand il est parti en Corrèze ou dans ce coin-là, en Auvergne.
Alors, quand il est parti à Boussac.
À Boussac, oui.
Quand il est parti à Boussac, alors là, nous sommes beaucoup plus tard. Il est parti à Boussac, nous sommes, beaucoup plus tard, nous sommes dans les années 50.
Ah, c'est là, après
oui,
48.
Oui, alors, oui, c'est après 48. Dans les années Boussac, là, il crée avec Georges Sand, une revue qui s'appelle L'Éclaireur, et où il continue. Alors, toutes ces revues, il y avait eu, auparavant, avant la revue encyclopédique, il y avait eu la revue sociale. Nous ne pourrions pas entrer dans les détails de toutes ces revues. Mais il se trouve, en fait, que la revue change, le nom change, mais lui est toujours là, et finalement, les conceptions sont les mêmes. Alors, oui, vous me disiez quoi ? Vous me disiez...
Non, je vous disais alors, simplement un mot sur 48, parce qu'il a quand même été élu à ce moment-là.
Alors, en 48, il a été élu député de Paris, que vous dire de plus ? Bon, c'est la première fois...
Il n'a pas été éblouissant, hein ? C'était pas un bon orateur, je crois.
Non, c'est pas un bon orateur. Il y a eu même un épisode assez singulier où... Enfin, finalement, il a déclenché les risées de l'Assemblée. Mais, vous savez, il ne faut pas insister. C'est vrai, c'est quand même... C'est vrai,
écoutez, il ne faut pas dire un mot contre ce pauvre Pierre Leroux.
Non, c'est pas...
Il est adorable, mais de temps en temps, comme tout le monde, il peut faire une bévue.
Oui, non, mais il a des travers. Il a des travers. Dans la lettre que j'ai envoyée au président Mitterrand, lui demandant s'il acceptait que je lui dédie ce livre, j'ai parlé des épaisseurs idéologiques de Leroux. Il faut bien voir que tout ça vient du 19e siècle. Il est l'inspirateur de Consuelo, il y a toute une espèce de rêverie métaphysique, de pacotille, qui continue de véhiculer, qui est là, dans son...
Quand les gens ont ri à l'Assemblée, c'est quand il a proposé de planter des peupliers, je crois.
Oui,
mais je trouve que c'était une très bonne idée, d'ailleurs. Ça,
l'arbre de la liberté.
C'est la seule chose qui a été appliquée, finalement.
C'est l'arbre de la liberté.
Oui, c'est l'arbre de la liberté. Mais il y a partout sur les routes de France des peupliers, maintenant.
Ah non, la seule chose, vous allez un peu pas.
Socialisme
je
aussi.
Je considère que la révolution de... Et lui aussi. De 89 est une très très grande chose, ouais. Et il s'y réfère continuellement, continuellement. Mais oui, il a des travers. Mais au total, et c'est la raison pour laquelle j'ai travaillé pendant plusieurs années, 5 ans à ce livre, c'est que justement je trouve que tout ça est très très actuel. Débarrassé de ses grosseurs, de ses épaisseurs, de ses ridicules, tout ça est très très actuel, n'est-ce pas ?
Oui. Il y a tout de même une idée curieuse, ce n'est pas ridicule, elle est curieuse, celle-là, c'est qu'il est anticolonialiste, il n'y a pas de doute. Mais il dit, puisque de toute façon on a pris l'Algérie, il faut faire un plan de colonisation. C'est un peu bizarre aussi.
Oui, non mais bon, là, évidemment le colonialisme le scandalise,
oui.
Bien. Mais il se sent impuissant à lui tout seul. Mmh. Alors il y a un fait là, d'histoire. Contre lequel on ne peut pas grand-chose. Alors il propose que l'on fasse en sorte que, au lieu que ce soit une entrave à la liberté, que finalement cette Algérie serve au bien général, aussi bien des Algériens que des Français.
Alors, oui, aujourd'hui, ça paraît un petit peu étrange, peut-être à l'époque. Non, mais enfin, je veux dire, il y a une partie aussi de la gauche française, même récemment, qui était plutôt pour l'Algérie française, parce que la France était le pays des droits de l'homme.
Bien.
Si, il y a une confusion, là.
Oui, il y a une confusion, mais qui nous éloignerait de Leroux.
Simplement, simplement, on cite ça. Alors, pour reprendre son existence, il y a eu le saint-simonisme, il y a eu... l'amitié avec Georges Sand, la rupture avec Sainte-Beuve dont on n'a pas parlé, le pianotype, et puis 1848. Hein?
L'Assemblée constituante, puis ensuite l'Assemblée constituante dissoute, il est réélu député de Paris en 49 à l'Assemblée législative, et puis alors arrive donc le coup d'État du 2 décembre, et il quitte la France, comme beaucoup d'émigrés, n'est-ce pas, des gens qui n'ont pas... qui n'ont pas admis le régime de Napoléon III, et il se retrouve à Jersey avec Victor Hugo.
Auparavant, il fait un petit stage à Londres, et c'est pas facile. Hein?
Ah, alors là, il rencontre Stuart Mill, et il a des difficultés abominables, parce qu'au fond, les Anglais s'emploient d'ailleurs à rendre la vie des immigrés français qui sont à Londres la plus difficile et la plus impossible possible.
Oui, et Mazzini aussi. Hein?
Hein? Mazzini. Alors oui, il y a une querelle qui continue avec, disons, l'extrême-gauche, qui lui reproche son christianisme, même militant, mais qui lui reproche son christianisme, et qui sont des bouts de feu, en fait, qui jouent un jeu démagogique et qui cherchent au fond à reprendre le pouvoir et à être le flambeau seul, à eux seuls, de la France républicaine. Mais enfin, bon, peu à peu, toujours plus ou moins, comment dire, sur la corde, presque à la limite de la franche misère. Le voilà parti pour Jersey où il rencontre Victor Hugo. Voilà. Alors pendant que lui, il a 9 enfants.
Oui. Tout ça est à Jersey aussi.
Tout ça à Jersey. Alors à Jersey, il a 9 enfants.
Oui.
Il a 9 enfants. 5 de sa première femme, 4 ensuite. Et pendant ce temps-là, monsieur Victor Hugo se balade, fait des balades à cheval sur la grève de Saint-Marès.
Oui.
Et lui,
il pense pour l'éternité, là. Tandis que lui, le pauvre,
il n'ose pas aller se prononcer, se présenter chez Victor Hugo. Il roule son chapeau, il a là des gros sabots, il gratte la terre, il ne sait pas comment vivre. Oui. Et il a inventé un système d'utilisation du guano, au fond, des excréments des oiseaux. Et il essaye, au fond, il relance l'idée du cycle...
Ce qui n'était pas...
Du
pas
cycle,
tôt,
hein. n'est-ce ouais. pas, naturel, ouais. du cycle de l'azote. Ouais. Les excréments servent à renourrir...
Pas trop sortir des excréments, il traduit le livre de Job aussi.
Traduit le livre de Job. Et à la fin, d'ailleurs, de sa vie, il publiera ce livre de Job, par l'entremise duquel il révèle, au fond, qu'il a fait une gigantesque découverte, c'est finalement l'histoire
d'Isaïe
et du miracle. Enfin, il voit en Isaïe finalement un des dénonciateurs de l'oligarchie et du pouvoir.
Et c'est paraît-il une très belle traduction.
Ah oui, très magnifique. Ouais. Goethe lui-même lui a rendu hommage sur sa traduction. Bon, mais à Jersey, alors il y a des discussions tout à fait extraordinaires entre lui et Victor Hugo. Et Victor Hugo, je ne peux pas le dire, ne sort pas vainqueur de cet entretien, parce que Victor Hugo joue les grandes gueules, enfin, au fond, et pense à lui beaucoup plus qu'à l'avenir.
Donc l'exil Londres, Jersey, et puis retour à Paris, et c'est la guerre de 70. Et puis c'est la Commune, et il meurt de vieillesse, il meurt d'épuisement surtout.
Sous la Commune.
De fatigue, au début de la Commune.
C'est en
avril 71.
Et avec les honneurs de la Commune.
Il y a des délégués, bien qu'il fût chrétien, on a tout de même reconnu le grand combattant de la liberté.
Et on a surtout reconnu en lui le combattant de 1830 et de 1848. Alors, en 1871, il est déjà très vieux, il est déjà très âgé. Donc, pour finir...
Tout à fait, hein, parce que la musique commence.
La voix moyenne n'est pas la moins révolutionnaire. Voilà l'essentiel de ce brûlot politique qu'est l'œuvre de Leroux.
Pierre Leroux, inventeur du socialisme, par Jérôme Peignot, édition Klingsic.
Mon cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur.
C'était Agora, chargé de réalisation Michel Prudhon, prise de son Jean-Mathieu Zinn, Geneviève Nguyen, et demain Agora, je recevrai Hélène Carrère d'Ancos.
Cerise d'amour aux robes pareilles, pendant sous les feuilles en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail, concueillant, rêvant.
Dans un instant, perspective scientifique, connaissance et communication. C'est une série de Ruth Scheps, coproduction Radio Suisse Romande, Espace 2. Ce soir, c'est la deuxième émission, l'idéologie de la communication avec Philippe Breton, sociologue, chargé de recherche au CNRS, chercheur à l'université Strasbourg 2.
Vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des chagrins.